Décryptage. Anne Corpet.
Un Palestinien a été tué ce dimanche à Naplouse, dernière victime en date d'un conflit armé de basse intensité, mais de plus en plus violent dans les territoires palestiniens. Depuis le début de l'année, une centaine de Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie. C'est le pire bilan depuis 7 ans. Les raids des Israéliens dans les territoires occupés sont quasi quotidiens. Il y a eu parallèlement une augmentation des attaques menées par des Palestiniens. Et puis il y a aussi de violents affrontements entre Palestiniens, comme par exemple la semaine dernière à Naplouse. Alors, le conflit israélo-palestinien a bien été évoqué devant l'Assemblée générale de l'ONU, mais l'attention du monde est ailleurs, focalisée sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. Que se passe-t-il dans les territoires occupés? Y a-t-il matière à un semblant d'espoir? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui dans Décryptage. Et pour évoquer la situation en Cisjordanie, nous sommes en studio avec Xavier Guignard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au centre Noria Research. Merci d'être avec nous en studio. Et nous sommes aussi en ligne de Jérusalem avec Inès Abdelrazek. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du plaidoyer pour le Palestine Institute for Public Diplomacy. Et avant de commencer, je voulais vous faire écouter ceci. Ce qu'on entend, c'est la bande-son d'une scène relayée depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. On y voit des soldats israéliens bousculer un vieil homme dont la tête heurte violemment le sol dans la vieille ville de Jérusalem. Il faut préciser que la saison des fêtes de fin d'année commence en Israël et que des centaines d'Israéliens ont déjà commencé à affluer dans la vieille ville pour prier au mur des Lamentations. Alors Inès Abdelrazek, puisque vous êtes sur place, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous décrire l'ambiance aujourd'hui dans la ville sainte?
Oui, alors écoutez, comme chaque année, les fêtes juives et les colons, que ce soit pendant les fêtes juives ou lors de la grande marche qu'on a vue, des drapeaux, ils défilent pour montrer les muscles et avec cette idéologie de vouloir coloniser la vieille ville. Ceci se passe chaque année, donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Malheureusement, chaque année, les Palestiniens en font les frais. Et donc la situation est que les gens essayent pour la plupart de rester chez eux parce que c'est une situation très dangereuse pour les Palestiniens dans la ville en général.
Alors oui, le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a mis en garde jeudi contre une escalade militaire en cas de visite massive de juifs sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem pendant cette saison des fêtes juives. Xavier Guignard, il y a vraiment un risque que ça dégénère? C'est une période à risque?
C'est une période à risque, pas forcément depuis Gaza. C'est une période à risque d'abord parce que les Palestiniens et Palestines de Jérusalem sont effectivement cloîtrés chez eux. Comme le rappelait Inès, la circulation dans la ville, l'accès au lieu saint pour cette population est interdite. Le Hamas comme l'autorité sont tenus d'exprimer leur désapprobation. Jérusalem reste peut-être le dernier dossier sur lequel Mahmoud Abbas ne peut et ne veut pas céder, malgré les concessions qu'il fait depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc la parole du Hamas à l'heure actuelle, elle n'est pas engageante d'un point de vue militaire. Elle est symbolique d'un point de vue politique. Elle est surtout symbolique de l'incapacité des pouvoirs palestiniens, qu'ils siègent à Ramallah ou à Gaza, à faire régner un semblant de leur ordre à Jérusalem, qui est entièrement soumise à la volonté et des forces israéliennes, et là des groupuscules ultranationalistes.
Alors, pendant ce temps, la violence continue de sévir en Cisjordanie. Je le disais en introduction, un Palestinien a été tué ce dimanche à Naplouse. Il était membre d'une faction locale nommée les Lions de la Tanière. C'est un nouveau groupe armé palestinien, Inès Abdelrazek.
Oui, alors il faut bien voir que toute cette violence, tout est connecté. Hein. L'armée israélienne, que ce soit la police israélienne à Jérusalem ou l'armée israélienne en Cisjordanie et la réponse de l'autorité palestinienne, y compris violente, tout ça fait partie du même étau qui se resserre des forces d'occupation israéliennes. Il y a une vraie volonté de juguler toute forme de résistance à l'occupation. Et donc, en effet, depuis, on va dire, plusieurs mois et un an ou deux, il y a des nouveaux groupes armés, souvent des jeunes qui se revendiquent tout en courant de la résistance armée contre l'occupation. Et toute cette violence qu'on voit donc dans toutes les villes, hein, y compris cet été à Gaza, fait partie d'un même mouvement, on va dire, de répression de la part d'Israël, qui est soutenu et on va dire redoublé par les forces de sécurité de l'autorité palestinienne.
Et Xavier Guignard, ça veut dire que ces jeunes palestiniens font plus confiance au mouvement déjà constitué ?
Alors, la confiance, elle est rompue depuis de nombreuses années. Elle est rompue depuis la fin du mandat d'Abbas qui a expiré en 2009. Et je pense que...
Rappeler qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans.
Voilà, et l'absence et l'annulation à la dernière minute des élections législatives l'an dernier a probablement enfoncé le coin. Mais en l'espèce, si on regarde d'un petit peu plus près, vous avez effectivement toute cette jeunesse qui reprend ou qui prend les armes sous diverses appellations. Malgré tout, le terreau est connu. Il vient à la fois de la jeunesse des camps, des quartiers populaires, mais certains sont issus des rangs du Fatah. Certains ont des liens personnels ou familiaux avec des cadres ou d'anciens cadres de l'appareil de sécurité de l'autorité. Donc le divorce existe, mais il existe aussi au sein de l'autorité où le débat sur la conduite à tenir face à une demande de plus en plus pressante d'Israël de déléguer les opérations de maintien de l'ordre, ce qui a conduit à Naplouse la semaine dernière à des arrestations de Palestiniens et aujourd'hui la donnée fondamentale.
Et l'autorité palestinienne et son leader, Mahmoud Abbas, il reste légitime aux yeux des Palestiniens, Inès Abdelrazak ?
Non, pas du tout. Ça fait longtemps que le président Mahmoud Abbas a perdu toute légitimité. Les sondages, d'ailleurs, les quelques sondages qui existent le montrent. Plus de 80% de la population palestinienne veut que le président démissionne. Il n'est plus pris au sérieux. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne, en fait, est gouverné par, on va dire, quelques personnes, ça se compte sur une poignée de main, qui tiennent les forces de sécurité. Et il faut bien comprendre que l'autorité palestinienne est complètement dépendante d'Israël. L'autorité palestinienne n'a pas de souveraineté. Elle n'a qu'une autonomie limitée dans quelques îlots qui représentent 16% de la Cisjordanie. Et puis, de l'autre côté, il y a le Hamas à Gaza. Mais Israël contrôle l'entièreté des frontières, contrôle, maille toute la Cisjordanie. Donc en fait, l'autorité palestinienne est de plus en plus vue, surtout comme complice de l'occupation israélienne. Et le leadership veut garder le pouvoir, alors que la population est de plus en plus en colère et de plus en plus frustrée, justement, contre cette autorité qui n'est vue que comme complice, finalement, de la colonisation.
Et c'est ce qui a provoqué, Xavier Guignard, ces heurts, ces affrontements assez violents auxquels on a assisté la semaine dernière entre jeunes Palestiniens et forces de sécurité de l'autorité palestinienne à Naplouse. Qu'est-ce qui s'était passé ?
Alors l'autorité est rentrée à Naplouse pour arrêter l'un des hommes les plus recherchés de Cisjordanie pour les Israéliens, qui s'appelle Moussa Abchtaieh, qui est réputé être l'un des cadres du Hamas local. Alors à l'échelle d'une ville comme celle-là, la division entre Hamas, Fatah et les autres factions est moins visible que ce qu'on peut croire au niveau national. Il y a en réalité une collaboration, une coopération entre divers groupes armés qui, effectivement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, changent régulièrement d'appellation. Son arrestation a provoqué une déflagration au sein de la ville parce que c'est une défiance renouvelée envers l'autorité qui a, pour la première fois, a priori, déployé, y compris des snipers, des systèmes de surveillance contre sa propre population et qui monte d'un cran dans la répression et dans l'octroi de services qu'elle fait auprès d'Israël. Alors, il était question aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, d'une éventuelle libération de Moussa Abchtaieh, mais dans tous les cas, c'est au-delà d'une altercation qu'il y a. C'est vraiment une défiance totale qu'il y a entre une population complètement délaissée, qui n'a aucun horizon politique, à qui on n'offre aucune solution, et une autorité qui est effectivement repliée, rabougrie, sur une autonomie qui est de plus en plus grignotée et qui ne sait plus quoi dire, et on va sûrement parler, ou quoi faire face à Israël.
Alors justement, parlons d'Israël. La semaine dernière, devant l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre Yair Lapid a appelé à une solution à deux États. Je vous propose de l'écouter.
Un accord avec les Palestiniens basé sur l'existence de deux États pour deux peuples est la meilleure chose pour la sécurité d'Israël, pour l'économie d'Israël et pour l'avenir de nos enfants. Malgré tous les obstacles, une grande majorité des Israéliens soutient cette vision de la solution à deux États encore aujourd'hui, et j'en suis l'un d'eux. Nous n'avons qu'une condition, qu'un futur État palestinien soit pacifique. Alors baissez vos armes et il y aura la paix.
Put down your weapons and there will be peace.
Inès Abdelrazak, c'est la première fois depuis des années que cette formule, cette solution à deux États est évoquée à l'ONU par un responsable israélien. Le président américain a qualifié ses propos de courageux. Le médiateur de l'ONU pour le Proche-Orient les a qualifiés d'importants. Votre avis, c'est un pas ?
Alors, avec cette allocution, on voit quand même toute l'ampleur justement de comment utiliser le langage pour détourner de la réalité. C'est exactement ce que fait Yair Lapid, hein, qui a donc un visage plus libéral et plus présentable auprès de la communauté internationale. Cela permet à l'opposition, hein, Netanyahou et Bennett, ensuite, de montrer les muscles, mais il faut bien voir que Yair Lapid a participé à la coalition d'un gouvernement qui a continué finalement exactement les mêmes politiques. Hein, les expulsions massives de Palestiniens ont continué, notamment à Massa Ferriata. Les constructions de colonies ont continué à être approuvées. Jérusalem a été de plus en plus annexée et la sécurité à Jérusalem n'a fait qu'être renforcée par la violence par les forces de sécurité israéliennes s'est renforcée. Donc, je veux dire, c'est vraiment là où l'utilisation de la propagande, hein, des informations et du langage pour essayer, on va dire, de créer des écrans de fumée fonctionne encore très bien auprès de la communauté internationale. Malheureusement, il n'y a aucune volonté depuis des années de la part du leadership israélien d'aller vers une solution à deux États. D'ailleurs, aucun gouvernement israélien, jamais dans l'histoire, n'a écrit et n'a signé de documents qui reconnaissent l'existence ou la possibilité d'existence d'un État palestinien. Donc on est là, encore une fois, dans des jeux diplomatiques où cela permet à Israël, on va dire, de se dédouaner de toute responsabilité et de continuer à annexer et à coloniser en toute impunité.
Et à grignoter du terrain. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'a dénoncé, quand ça a été son tour d'aller à la tribune, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. On écoute un extrait de son intervention.
Israël ne nous laisse aucun territoire pour établir notre pays à cause de sa frénétique expansion coloniale. Où vont habiter nos citoyens dignement et en liberté? Où pouvons-nous bâtir notre État indépendant qui vivra en paix avec ses voisins? Où pourrons-nous bâtir notre État indépendant pour vivre en paix avec eux?
Xavier Guignard, est-ce que cette solution à deux États reste viable sur le terrain?
Alors, faut d'abord avoir en tête qu'il n'y a qu'un seul État qui existe et qui a toujours existé jusque-là. Il y a une seule puissance politique entre la mer et le Jourdain, pour le dire très vite. La solution à deux États, et le discours de Lapid nous ramène presque 30 ans en arrière, c'est un rêve qui n'a plus aucune existence sur le terrain.
Qui n'a plus aucun sens géographique, c'est ce que vous voulez dire?
Alors, qui n'a plus aucun sens géographique parce que le territoire est morcelé, qui n'a aucun sens devant les exigences qui sont mises devant les Israéliens, et puis surtout qui n'a aucun sens quand on voit le peu de cas qui est fait de cette solution par les Israéliens, mais par leurs partenaires étrangers. Et je voudrais simplement rajouter à la liste qu'a dressée ma consoeur de la distinction entre le discours de Lapid et ce qui se passe sur le terrain, peut-être deux événements récents par rapport à la litanie de violence auxquelles les Palestiniens sont confrontés. Il y a une grève de la faim qui a commencé ce matin, de 30 prisonniers en détention administrative. C'est des prisonniers qui n'ont pas de procès, y compris notre concitoyen Salah Hamouri. Et puis, il y a une reconnaissance quasi évidente de culpabilité dans la mort de Shirin Abu Akleh, votre consoeur en l'espèce.
Oui, la qui journaliste américano-palestinienne qui travaillait pour Al Jazeera et qui a été abattue par un tir de sniper.
En mai dernier,
à Jénine, je crois.
À Jénine, pardon, excusez-moi. Et donc, dans cette situation de fait, évidemment, elle laisse aucune place à un État palestinien. Peut-être ce qui est important dans le discours de Lapid, au-delà de l'utilisation rarissime du terme d'État palestinien, c'est en réalité la focale qu'il place. Il la place sur la violence palestinienne. Il explique en quelque sorte, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, que si les Palestiniens n'ont pas d'État, c'est de leur fait, c'est du fait de leur violence. Cette accusation, elle tient absolument pas la route quand on voit d'où vient la violence et qui l'a subie depuis une trentaine d'années. Mais c'est le discours qui est servi et c'est l'excuse qui est trouvée par la partie la plus libérale de la scène politique israélienne.
Inès Abdelrazek, Mahmoud Abbas a aussi dénoncé le soutien illimité des Américains aux Israéliens à la tribune de l'ONU. Il a évoqué deux poids, deux mesures dans la protection par les États-Unis du droit international. Est-ce que les États-Unis peuvent ou même tout simplement veulent pousser Israël vers la négociation ou est-ce qu'ils ont finalement renoncé à tenter de jouer les intermédiaires?
Non, aujourd'hui, les Américains n'ont aucune intention de faire pression sur Israël. Et vous disiez en introduction, voilà, est-ce qu'il y a de l'espoir? Et je dirais qu'en fait, l'espoir n'existera que quand la communauté internationale et principalement, en effet, les acteurs qui ont le plus de poids, notamment les États-Unis, ici en Palestine, auront la même réaction qu'ils ont face à l'annexion, face à l'agression territoriale que le monde a contre la Russie, face à l'agression contre l'Ukraine. Très clairement, les États-Unis continuent sans condition à envoyer 3,8 milliards de dollars par an simplement d'aide militaire à Israël. Donc il y a quand même toujours cette idée qu'il pourrait y avoir une médiation d'un pays comme les États-Unis ou même des Européens, mais même les Européens sont le premier partenaire commercial d'Israël et continuent à commercer des armes et des équipements militaires avec Israël.
Gaz.
Donc il n'y a pas vraiment de rôle de médiation possible dans ce cas-là.
Et Xavier Guignard, quid des pays arabes? Est-ce que les Palestiniens peuvent espérer un quelconque soutien des pays arabes?
Récemment, l'émir du Qatar a donné une interview chez vos confrères du Point. On était étonné qu'un leader arabe se rappelle encore de la question palestinienne. Elle semblait effectivement aujourd'hui complètement enterrée, alors à la fois devant l'urgence et l'horreur de guerres comme civiles comme au Yémen et en Syrie, devant la montée autoritaire qu'on a pu voir récemment malheureusement en Tunisie, en Égypte. Mais au final, on avait l'impression que cette question avait complètement disparu. Derrière, la volonté de normaliser, c'est le terme qui s'est imposé, entre notamment les puissances du Golfe et Israël.
Dans le cadre des fameuses accord d'Abraham.
Exactement, dans lequel la reconnaissance d'Israël ou l'officialisation de liens diplomatiques venait appuyer les liens économiques et militaires qui existent déjà. Et c'est vrai que cette question palestinienne, elle est aujourd'hui portée par aucune instance collective arabe. La Ligue arabe n'est plus capable depuis longtemps de parler d'une seule voix, mais sur la question palestinienne, elle ne l'est plus non plus. Et aujourd'hui, peu de leaders arabes, effectivement, font la question palestinienne une question centrale. Reste que c'est une question qui mobilise les foules. On dit souvent que c'est une question qui a disparu. Elle n'a pas forcément disparu du cœur et de la rue de ces pays-là, mais elle aujourd'hui plus une arme politique brandie par aucun de ses dirigeants.
Inès Abdelrazek, les Palestiniens que vous rencontrez au quotidien à Ramallah ou à Jérusalem, ils se sentent totalement abandonnés par la communauté internationale. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Oui, il y a un vrai sentiment d'abandon et en effet de deux poids, deux mesures. Je pense que il y a vraiment beaucoup d'aide internationale en termes financiers qui est donnée aux Palestiniens. Autant c'est vraiment maintenant vu de plus en plus comme simplement du financement de culpabilité pour éviter de se confronter à toute possibilité d'une solution politique. Donc il y a un vrai sentiment d'abandon. Cela dit, il y a quand même des solidarités qui se créent justement non pas avec les gouvernements et avec les gouvernants, mais avec des mouvements sociaux et politiques à travers le monde. Donc ça continue dans le monde arabe, mais bien sûr aussi aux États-Unis par exemple, avec les mouvements comme Black Lives Matter. L'idée, je pense, qui arrive à émerger, c'est que la Palestine et la question palestinienne est une question de justice, est une question de liberté et de libération à la fois nationale, mais aussi une question de droit. Donc je pense que c'est là aussi où les Palestiniens peuvent garder un peu d'espoir et où, en effet, je pense que la fracture, ce n'est pas une question d'être pro-israélien ou pro-palestinien. C'est vraiment la question qu'Israël, aujourd'hui, se positionne en tant que puissance autoritaire. Ça fait partie des États qui ont des intérêts stratégiques qui sont vraiment basés sur la répression à la fois de leur propre population ou des populations sous leur contrôle et qui ont pour intérêt d'échanger des technologies de cybersurveillance, des technologies militaires, ce qui est le cas avec les Émirats arabes unis, les États-Unis et autres.
Et on arrive à la fin de cette émission. Juste une très courte dernière question, Xavier Guignard. On lit de plus en plus souvent le mot apartheid pour Israël. Ça vous semble justifié?
Oui, oui, j'ai été co-signataire d'une tribune qui le défend et je pense que ça décrit particulièrement bien le fait qu'il y ait une différenciation ethnique
entre Palestiniens et Israéliens. Je vous remercie, Xavier Guignard, chercheur au centre Noria Research, et Inès Abdelrazek, directrice du plaidoyer pour le Palestine, Institute for Palestine.